Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Aujourd'hui encore, à la cantine, vous avez craqué. Vous vous étiez pourtant juré de ne plus vous arrêter au rayon frites et plats en sauce et de vous contenter d'une jardinière de légumes cuits à la vapeur. Un choix bien meilleur pour vos artères. Seulement voilà, dans votre cantine, on ne connaît pas le nudge. Du coup, frites et plats en sauce. Le nudge, c'est une technique, un dispositif qui vise à orienter vos choix en douceur pour votre bien ou celui de la collectivité sans que vous ayez toujours conscience d'en être l'objet. Un des exemples les plus connus est celui de la mouche dessinée au centre des urinoirs. Tout homme normalement constitué aura tendance à viser l'insecte, donc à limiter les dommages collatéraux. Résultat, des économies en frais de nettoyage. Alors reprenons l'exemple de la cantine. Imaginons qu'à la fin de chaque mois, on vous attribue des points en fonction de ce que vous avez mangé et que vous puissiez comparer avec vos collègues de bureau. Et bien selon la théorie du nudge, vous seriez incité à lever le pied sur les aliments gras. Alors cette technique, bien connue des publicitaire, est aujourd'hui de plus en plus utilisée dans le cadre des politiques publiques. L'intention se veut vertueuse, c'est le bien commun qui est visé, mais elle pose des problèmes d'ordre éthique. Où s'arrête l'orientation des comportements, où commence la manipulation? Alors le nudge, une technique de persuasion sous influence, c'est la question dont nous allons discuter ce soir en compagnie de trois invités. Coralie Chevalier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chargée de recherche au laboratoire de neurosciences cognitives qui dépend de l'INSERM, spécialiste en sciences comportementales. On peut notamment mentionner un article que vous avez publié en avril dernier dans la revue Cerveau et Psycho, les sciences du comportement au service des politiques publiques. Pour discuter avec vous, Sophie Dubuisson-Quillier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue, directrice de recherche CNRS, directrice adjointe du Centre de sociologie des organisations. Et vous avez publié aux presses de Sciences Po, c'était l'an dernier, « Gouverner les conduites », enfin un ouvrage sous votre direction, puisqu'il y a un certain nombre de contributions. Puis notre troisième invité se trouve en duplex des studios de Radio France à Bruxelles. Il s'agit d'Anne-Lise Siboni. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur en droit européen à l'Université catholique de Louvain. Vous vous intéressez notamment à l'apport des sciences comportementales dans la fabrication du droit. On vous doit un ouvrage publié chez Bloomsbury, c'est un éditeur, en 2015 avec Alberto Alemano, Nudge and the Law, une perspective européenne. J'ai francisé le titre parce que je crois, sauf erreur de ma part, que c'est un ouvrage qui n'est pas disponible pour l'instant, en tout cas en langue française. C'est bien ça ?
C'est bien ça.
Alors, je vous propose d'abord pour commencer, peut-être d'expliquer. J'ai tenté de le faire dans l'introduction, mais j'ai sans doute commis quelques imprécisions, voire quelques erreurs, de définir le nudge. Enfin, d'ailleurs, le nudge ou les nudges. Comment est-ce qu'on doit dire, Coralie Chevalier ?
Ah, ben, on dit, c'est au choix. Donc, le nudge ou les nudges, c'est un petit exemple de la manière dont les sciences comportementales peuvent être utilisées pour les politiques publiques. Donc, vous avez mis l'accent là tout à l'heure sur le marketing. Moi, j'ai l'impression que c'est presque l'inverse. C'est-à-dire que c'était un outil qui était réfléchi au niveau des politiques publiques et dont le marketing s'est emparé. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Donc, les nudges, c'est un petit morceau de ce que peuvent faire les sciences comportementales pour informer la façon dont on déploie et dont on crée une politique publique. Donc, on s'appuie sur ce qu'on connaît de la psychologie du citoyen pour créer des politiques publiques qui sont plus efficaces et qui prennent en compte tous les aspects de l'humain, y compris dans tout ce qu'il peut avoir de plus irrationnel.
Est-ce que c'est une définition qui vous convient, que vous avez envie de compléter éventuellement, Sophie Dubuisson-Quillier ?
Oui, c'était intéressant de replacer effectivement le nudge dans un ensemble de savoirs. Et je replacerai aussi le nudge en fait, dans un ensemble d'interventions en fait, de l'État contemporain qui se développe aujourd'hui et donc qu'on peut labelliser comme un gouvernement des conduites. Le gouvernement des conduites, c'est une intervention qui évite la contrainte et qui passe par toute forme d'incitation. Donc ces incitations peuvent être des incitations économiques comme la taxe par exemple, mais il y a également beaucoup de campagnes d'information et d'éducation. Il y a tous les outils de type label, étiquetage qui interviennent dans ce gouvernement des conduites. Et puis il y a le nudge. Le nudge tenant une place un peu spécifique parce que le principe du gouvernement des conduites, donc qui est cette intervention par l'incitation, consiste en fait à faire prendre conscience aux individus, d'enjeux qui sont collectifs et pour lesquels ils doivent modifier leur comportement en devenant réflexifs. La différence peut-être, c'est que le nudge gomme un peu cette visibilisation et des enjeux et de la réflexivité associée.
Anne-Lise Sibony, on a commencé à définir le nudge, mais on ne l'a pas traduit. Qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs le nudge ?
Alors, c'est difficile à traduire. Peut-être je voudrais, comme c'est vrai que c'est un mot bizarre, certainement en français, pour ceux qui ne sont pas familiers avec la notion, peut-être que j'aimerais décrire la couverture du livre Nudge, qui a popularisé la notion. Sur cette couverture, on voit deux éléphants. Un petit éléphant et un grand éléphant. Peut-être c'est la maman éléphant et un petit éléphanteau. Et puis, avec sa trompe, le grand éléphant oriente les pas du petit éléphant. Elle lui donne pas un grand coup de trompe, ça n'est pas une sanction. Elle lui donne elle le pousse un tout petit peu dans une direction. Elle oriente ses pas. Donc c'est ça l'idée. Par ailleurs, bon, il y a beaucoup de discussions sur la définition du nudge. En fait, la raison pour laquelle il n'y a pas une définition très rigoureuse, c'est que le titre du livre qui a fait connaître cette notion a été choisi par l'éditeur. C'était pas le titre original choisi par les auteurs. Alors, c'était un magnifique choix, dans le sens où ça fait mouche, si j'ose dire, et le livre s'est très 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 bien vendu, mais c'est pas un concept très précis. Dans la définition initiale que vous avez donnée, je retiens que c'est une technique ou un ensemble de techniques qui vise à orienter les comportements en créant une architecture de choix. Dans l'exemple que vous avez pris de la cantine, l'architecte de choix, c'est la personne qui dispose les plats sur le buffet que vous allez parcourir. Si cette personne met les desserts au début du parcours, quand vous avez encore faim et que vous n'avez encore rien sur votre plateau, vraisemblablement, vous allez plus probablement prendre un dessert que si les desserts se trouvent à la fin et que vous passez devant lorsque votre plateau est déjà bien rempli. Elle influence votre choix en déterminant l'architecture de choix.
Alors ça fait partie des exemples, hein, justement, l'alimentation. J'évoquais aussi, vous disiez, c'est un terme nudge qui a fait mouche. Ben, je parlais justement de la mouche dans l'urinoir qui est censée, là aussi, orienter, disons, le choix lorsqu'on se retrouve dans cette configuration-là. Est-ce qu'il y a d'autres exemples de la vie courante, disons, encore Coralie Chevalier, qu'on pourrait encore avancer, qui font peut-être appel aussi à d'autres types de comportements, mais qui rentrent aussi dans cette famille du nudge?
Oui, ben, c'est intéressant parce que pour moi, les logos et les labels, ce sont des nudges. Donc, par exemple, le Nutri-Score, qui est développé en ce moment et qui est un label qui permet d'informer très rapidement le consommateur de la valeur nutritive d'un aliment avec des couleurs qui vont de vert à rouge. C'est une façon de nudger le consommateur pour orienter ses choix, l'aider à guider ses choix. Finalement, c'est une façon de présenter l'information qui est simplifiée par rapport à celle dont on dispose actuellement, qui est une information où on a les calories qui sont divisées en catégories, les glucides, les lipides, etc. Donc finalement, on propose une information simplifiée qui est censée être plus efficace. Et elle est plus efficace pourquoi ? Elle est plus efficace pour, étant donné ce qu'on sait du cerveau du consommateur. D'accord ? Si on était des calculatrices, en réalité, on aurait intérêt à conserver le système actuel, qui est un système avec plein de chiffres, parce qu'en fait, il y a plus d'informations dans ces chiffres que dans le logo. Donc, le Nutri-Score, c'est un nudge. Un passage piéton, c'est un nudge, parce qu'on exploite la propriété du système visuel qui fait que chez l'humain, le blanc sur le noir, c'est un contraste qui est très visible, pour attirer l'attention de l'automobiliste et protéger les piétons. Donc en fait, c'est intéressant parce que le nudge est devenu très 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 connu il n'y a pas très longtemps grâce au livre dont Anne-Lise parlait tout à l'heure. Mais en réalité, des nudges, il y en a partout dans notre environnement, déjà et depuis très longtemps.
C'est comme Monsieur Jourdain qui ne savait pas qu'il faisait de la prose. Alors on ne sait pas forcément. Absolument. Qu'on est confronté à du nudge. Alors là, je ne vais pas être forcément dans le nudge, je vais être plutôt dans l'incitation directe. Je vais vous inviter peut-être à mettre vos casques, puisqu'on me signale que ça sera un petit peu plus simple pour avoir une meilleure liaison avec notre invitée Anne-Lise Sibony, qui est en duplex de Bruxelles. Voilà, bah, c'est ça, les émissions en direct. Sophie Dubuisson, qu'il y ait. Donc il y a cette incitation qui ne se passe pas sous la contrainte, mais une des premières interrogations qu'on peut se poser, c'est justement que ce nudge-là, il existe, mais on ne s'en rend pas forcément compte. Est-ce que il ne vaudrait pas mieux avoir des dispositifs qui sont peut-être plus coercitifs, mais qui permettent au moins de savoir à quoi on est confronté, plutôt que ces incitations douces qui sont presque invisibles?
Bah, en effet, comme ça a été très bien expliqué, le nudge en fait revient à changer cette architecture pardon, du choix. Donc c'est l'idée que les individus, l'action des individus peut être appréhendée comme une série de choix. Et effectivement, en fait, quand on regarde un certain nombre de domaines dans lesquels se sont implantés ces nudges, hein, vous en avez cité un certain nombre, effectivement l'alimentation, mais il y a aussi la consommation d'énergie, le gaspillage alimentaire, la mobilité, etc. La question qui se pose, c'est est-ce que nos pratiques alimentaires, nos pratiques en matière de soins, nos pratiques en matière de consommation d'énergie peuvent se résumer à des choix, ou est-ce que, vous avez compris que c'est plutôt ce que je pense, ces pratiques sociales ne doivent pas être rapportées à des cadres sociaux un petit peu plus larges, qui d'une certaine manière les déterminent ou les contraignent. On pense à la trajectoire sociale, on pense par exemple sur l'alimentation aux contraintes de la famille, des dimensions de coordination. On a travaillé par exemple sur le gaspillage alimentaire. Est-ce que le gaspillage alimentaire, c'est une série de choix qu'on fait, ou est-ce que c'est une série de contraintes, de coordination, d'ajustement? Et tout le problème de l'action par le nudge, c'est peut-être aussi ce que le nudge laisse de côté et cette façon qu'a le nudge de ne pas prendre en compte ces cadres sociaux dans lesquels sont pris nos pratiques, sont prises pardon, nos pratiques sociales.
Qu'est-ce que vous pensez de cette réserve-là, Annelise Siboni?
Pour votre question de savoir si on doit... Si c'est problématique qu'on ne soit pas forcément conscient des nudges, je crois qu'il y a d'abord une chose à dire, c'est que souvent, c'est pas des dispositifs cachés. Quand vous avez un marchand de soda qui vend du soda dans des très très grands verres, c'est un nudge. Ça vous incite à consommer plus de soda que si on vous donnait un plus petit verre, simplement parce qu'on a tendance à finir le verre qu'on vous donne. Est-ce que la question, je pense, qui est derrière celle que vous posez, c'est est-ce que on peut s'y soustraire, même quand on vous dit ou quand vous vous rendez compte que vous êtes nudgé? Par exemple, une case précochée, c'est aussi un nudge. Si vous ne la décochez pas...
Qu'est-ce que c'est qu'une case précochée? C'est-à-dire, si on est sur un formulaire, par exemple, on veut acheter, je ne sais pas, mettons par exemple un billet d'avion, et puis on a déjà des cases précochées qui nous disent, bah voilà, vous allez être en classe affaires, et puis vous allez demander en plus à avoir, je sais pas, de la vidéo, voilà, et les cases sont déjà...
Ou une assurance, ou quelque chose comme ça. Ou bien, quand vous vous abonnez à quelque chose, la case qui dit que vous êtes d'accord pour le renouvellement annuel de votre abonnement, et que votre carte bleue soit débitée à la date anniversaire de votre contrat. Voilà, ça c'est l'option par défaut. Vous pouvez la décocher, mais c'est quand même efficace pour orienter les comportements, parce qu'assez souvent, on ne décoche pas les cases précochées. C'est ce que les psychologues appellent le biais d'inertie ou le biais de statu quo.
Oui, mais c'est une efficacité qui est plutôt inquiétante, justement. C'est-à-dire qu'on est capable, même si, je ne sais pas si le terme de manipulation peut être un terme qui vous convient à toutes les trois, mais en tout cas d'orienter des choix qui, là, ne sont pas des choix qui servent au bien commun ou même qui servent l'individu, mais qui l'incite plutôt à consommer davantage, Annelise Siboni.
Oui, tout dépend dans les mains de qui sont les nudges. On parlait en commençant du marketing d'une part et des politiques publiques d'autre part. Les nudges sont des deux côtés. Les deux exemples que je viens de prendre, c'est des marchands qui vous nudgent pour que vous consommiez plus. Mais la même technique, celle des options par défaut, peut très bien être utilisée par la puissance publique. C'est le cas par exemple en matière de dons d'organes. En France, si vous ne faites rien, par défaut, vous êtes donneur d'organes. Vous pouvez dire que vous ne voulez pas donner votre organe. Alors vous devez faire une démarche pour dire non, je ne veux pas être donneur d'organes. Dans d'autres pays, la règle par défaut est différente et vous devez au contraire faire une démarche positive pour vous inscrire sur un registre de donneur d'organes. Donc là, c'est bien la puissance publique, la loi même, qui définit une option par défaut et qui oriente les comportements. Et je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que dans cet exemple, c'est plutôt pour le bien commun si on dit que, par défaut, les gens sont donneurs d'organes.
Vous êtes d'accord avec ça, Coralie Chevalier ?
Oui, je suis complètement d'accord. Et je trouve que, d'ailleurs, c'est fondamental de distinguer l'utilisation du nudge et l'outil en lui-même. Le marketing peut mal user des nudges, mais ça ne signifie pas que l'outil en lui-même n'est pas bon. On peut prendre une analogie, je ne sais pas moi, par exemple la radio. Ça peut être utilisé à des fins de propagande ou à des fins d'information. Ça ne signifie pas que la radio est un mauvais outil. Donc les nudges, c'est éthique ou pas du tout éthique en fonction de ce qu'on fait. Et ce qui est important, c'est de vraiment complètement distinguer le marketing et l'action publique. Donc en Angleterre, par exemple, l'équipe la plus connue qui travaille pour le gouvernement à améliorer les politiques publiques à l'aide de ces outils et d'autres outils des sciences comportementales, cette équipe, elle est dirigée par des gens qui viennent du monde universitaire, qui ne sont pas du tout des gens qui viennent du marketing, etc. Donc ça, c'est fondamental. Mais on ne peut pas juger de l'outil seulement à partir du fait qu'il est parfois mal utilisé dans le marketing.
Et on peut peut-être pas non plus le juger seulement, enfin le juger positivement uniquement parce qu'il serait utilisé dans le cadre de politiques publiques.
C'est-à-dire non, je suis d'accord.
Des politiques publiques pourraient très bien aussi se servir de ces dispositifs pour mener des programmes, par exemple, qui ne seraient pas en faveur du bien commun.
Tout à fait. De la même manière qu'une politique publique peut utiliser une nouvelle loi, une nouvelle réglementation, un nouveau système d'amende pour un objectif qu'on considère ne pas servir le bien commun. Donc il faut juger l'aboutissement de l'intervention publique et non pas l'outil.
Sophie Dubuisson-Quellier, ça veut dire qu'il faut aussi être en mesure de porter ce jugement, c'est-à-dire d'avoir connaissance de ces dispositifs pour les juger.
Oui, tout cela est vrai, et en même temps, c'est quand même une propriété du nudge d'invisibiliser en fait le programme dont il est porteur. Et d'une certaine manière, c'est ça aussi qui peut poser problème, c'est-à-dire tout à l'heure, je disais, il y a cette situation d'ignorance par rapport aux cadres sociaux qui déterminent l'action des individus, et puis par ailleurs, il y a aussi une forme d'invisibilisation du programme qui peut être tout à fait porté par des politiques publiques mais de différents types d'obédience et qui peut du coup être un outil assez puissant dans des contextes assez différents.
Ce que vous voulez dire, c'est que pour que ça soit efficace, il faut que ça ne soit pas trop visible, sinon ça perd de l'efficacité, c'est ça ?
Non, c'est pas ce que j'essayais de dire. Ce que j'essayais de dire, c'est qu'une des propriétés du nudge, c'est de ne pas rendre visible le programme politique, hein, qu'il soit porté par des acteurs politiques ou des acteurs économiques dont il est porteur. C'est-à-dire qu'au fond, les individus qui sont nudgés ne sont pas censés avoir totalement conscience de la raison et du projet pour lequel ils le sont. Et ça me semble être un problème fondamental de cet outil-là et qui nécessite son usage avec parcimonie et grande prudence surtout.
Coralie Chevalier.
Je pense qu'on peut parfois utiliser les nudges de manière parfaitement invisible, mais la plupart du temps, ça n'est pas la façon dont c'est utilisé. Donc, reprenons le cas du Nutri-Score. Il me semble que là, c'est parfaitement transparent l'objectif, l'intention qui est derrière le Nutri-Score. Le citoyen est parfaitement en mesure de retrouver l'intention qui est on cherche à m'informer des nourritures qui sont bonnes et des nourritures qui ne sont pas bonnes. Pareil pour le passage piéton. Par ailleurs, il y a des expérimentations qui ont été conduites pour comparer des nudges transparents et des nudges invisibles en termes d'intention. Et rendre l'intention parfaitement manifeste ne change pas l'efficacité du nudge. Pour reprendre l'exemple de la cafétéria, si on explique aux gens, voilà, vous êtes dans une cafétéria dans laquelle on essaie d'organiser la nourriture de façon à vous aider à consommer des aliments qui sont meilleurs pour votre santé, ça a le même effet qui est que les gens se servent plus des aliments qui sont meilleurs pour eux et qui sont placés devant eux par rapport aux aliments qui sont moins bons pour eux et qui sont placés derrière dans la cafétéria.
On pourrait d'ailleurs reprendre l'exemple de la publicité, hein, qui finalement est assez proche de ce point de vue. C'est-à-dire que la publicité, on sait bien que c'est on nous ment quelque part, mais ça ne nous empêche pas de toute manière de consommer tout en ayant conscience que ce qui est porté dans le message n'est pas forcément quelque chose de tout à fait vrai. Annie Siboni, vous qui êtes en Belgique, est-ce que ces débats-là qu'on commence à avoir seulement en France, hein, parce que c'est encore une notion et des dispositifs qui sont assez peu connus, est-ce qu'on les a aussi à l'étranger ? Est-ce que ce sont des dispositifs qui sont plus développés dans d'autres pays ? Et est-ce que la France, justement, est peut-être un petit peu plus réticente parce que se posent des questions en termes d'éthique ?
Je crois que les questions d'éthique se posent partout. Et d'ailleurs, l'OCDE, qui étudie le sujet depuis quelques années, se pose aussi ces questions-là, réfléchit à des recommandations en matière d'usage éthique des sciences comportementales dans les politiques publiques. Donc, je crois que ce point n'est pas du tout spécifique à la France. Par ailleurs, oui, il y a des pays, Coralie Chevalier a déjà mentionné le Royaume-Uni, il y a plusieurs pays qui utilise à beaucoup plus grande échelle et de façon réfléchie les apports des sciences comportementales dans la confection des politiques publiques. Le Royaume-Uni est le pays qui a le plus d'expérience en la matière. C'est en 2010 qu'a été créé leur Nudge Unit. C'est pas le nom officiel, mais c'est comme ça que cette entité s'est fait connaître, avec d'ailleurs les conseils du prix Nobel d'économie, du dernier prix Nobel d'économie.
Qui s'appelle Richard Thaler.
Tout à fait. Et donc c'est une entité qui conseille notamment les pouvoirs publics et qui est en charge de mener des études avec une méthodologie très rigoureuse pour tester différentes idées, différentes mesures qui sont inspirées par les sciences comportementales. Mais les sciences comportementales donnent des idées. Par exemple, faire attention à où est-ce qu'on met les desserts et où est-ce qu'on met les frites dans la cantine. Mais ensuite, pour mettre en place au niveau de politique publique et pas seulement d'une cantine d'école, ces mesures, ça demande de tester parfois différentes variantes d'une même idée.
Pardonnez-moi, je reviens tout de suite vers vous, Annie Siboni, mais une nudge unit, ou alors je sais pas, une brigade ou une unité du nudge en France, au niveau justement gouvernemental, est-ce que c'est quelque chose aujourd'hui qui est en cours de réflexion, et est-ce que c'est quelque chose qui vous paraîtrait souhaitable, Sophie Dubuisson-Kellier et Coralie Chevalier? Coralie Chevalier d'abord.
Oui, alors il existe en France déjà une nudge unit qui est consistée d'un petit nombre de personnes. Donc, il y a déjà une volonté de mettre en place ces approches avec des sciences comportementales.
C'est le qui fait partie d'un ministère, ça.
Donc, cette unité faisait partie du SGMAP, qui signifie le Secrétariat Général pour la Modernisation de l'Action Publique. Et c'est un service qui était mis à disposition du Premier ministre et qui a la propriété de pouvoir être appelé par différents ministères. Donc, c'est interministériel, ce qui est très intéressant puisque ce sont des problématiques qui touchent à tous les ministères. Donc cette unité existe déjà, elle est petite et elle a assez peu de ressources. Et donc effectivement, il y a une certaine volonté en France avec énormément de discussions et un grand engouement pour développer quelque chose qui existe déjà. Donc cette unité a par exemple été impliquée dans un projet qui visait à augmenter le nombre de télédéclarants. Donc ça, c'est une thématique qui est importante pour l'État. Les sciences comportementales ont contribué à une réflexion sur comment faire pour inciter les citoyens à davantage déclarer leurs impôts en ligne et non plus sur papier.
C'est pas très compliqué en les décourageant, par exemple, à appeler, à prendre leur téléphone ou à se rendre dans certaines administrations. Hein. C'est aussi ça, d'ailleurs, le nudge. C'est-à-dire, ça passe par le découragement, peut-être, de certains administrés.
Non, je dirais que c'est censé être plus positif que ça. C'est-à-dire qu'on est censé présenter l'alternative et rendre l'alternative plus intéressante.
Un engouement, en tout cas, pour le nudge dans les politiques publiques, ça traduit quoi, selon vous, Sophie Dubuisson-Kellier?
Alors, moi, je serais plus mesurée. Il se trouve que, avec plusieurs collègues au Centre de sociologie des organisations, on travaille un peu sur cette question et on observe des engouements qui sont effectivement à divers endroits, mais on trouve également un certain nombre de réserves, de résistances, hein, d'un certain nombre d'acteurs publics qui aussi, parce que ils considèrent que les retours d'expérience sont pas forcément complètement concluants, et aussi peut-être probablement parce que ce que le nudge contient également, c'est une vision de la forme d'intervention de l'État très spécifique qui va responsabiliser excessivement les individus, puisque cette action par le comportement désigne le comportement des individus comme la cible première. Hein, c'est par là qu'il faut commencer. Il faut changer ces comportements.
Parce que ça permet de faire des économies aussi.
Oui, tout à fait. Mais du coup, ça laisse de côté peut-être d'autres formes de responsabilité, à commencer par celle des entreprises elles-mêmes qui mettent à disposition un certain nombre de produits dont on veut écarter les consommateurs. Donc on voit bien qu'il y a aussi une ambiguïté et cette question de la surresponsabilisation des individus à travers l'intervention par les nudges n'est pas toujours compatible avec notamment des formes d'intervention qu'on a en France qui considèrent aussi le rôle de la solidarité ou d'autres formes d'intervention.
Annelise Siboni, pour rester sur cette question, par exemple, de la télédéclaration. Alors, vous évoquiez tout à l'heure l'exemple du Royaume-Uni. Moi, ça me fait penser à un film, un des derniers films de Ken Loach, où on voit un quinquagénaire qui se retrouve au chômage et qui va se retrouver confronté au service, alors qu'il n'est plus vraiment le service public de l'emploi, et il n'a jamais touché un ordinateur de sa vie, il ne sait pas se servir d'Internet. Il va être complètement démuni par rapport, justement, à cette nouvelle politique de dématérialisation, on va dire, d'une partie du service public. Est-ce que ça n'est pas aussi un des problèmes du nudge, c'est-à-dire d'être avant tout motivé par des considérations budgétaires qui peuvent être tout à fait pertinentes? C'est-à-dire on comprend pour l'administration que ce soit intéressant qu'il y ait un certain nombre de démarches qui coûtent moins cher, mais est-ce que ça ne se fait pas parfois au détriment du service qui est rendu aux individus et donc au public?
Effectivement, donc la séduction pour les gouvernements est d'ordre budgétaire. Les mesures qui sont fondées sur des apports des sciences comportementales ne nécessitent pas forcément des changements coûteux et peuvent parfois rapporter gros. Un exemple qui vient du Royaume-Uni, mais qui a aussi été récemment appliqué en Belgique, c'est toujours en matière fiscale, ça consistait à modifier les lettres de rappel qui sont envoyées aux gens qui sont en retard pour payer leurs impôts. Donc collecter l'impôt, évidemment, ça ramène des sous dans les caisses de l'État. Et si vous devez envoyer un huissier, etc., diligenter des procédures, ça coûte encore plus de sous. Si les lettres de rappel fonctionnent bien, ça rapporte des sous. Et alors, l'intuition qui a été testée était la suivante. C'est que les gens sont sensibles à ce que les psychologues appellent la norme sociale. Donc si vous recevez une lettre qui vous dit « Vous n'avez pas encore payé votre impôt, mais 80% des gens de votre ville qui payent cet impôt, eux, ont déjà payé », vous allez être plus enclin à payer. En tout cas, c'est ce qu'on observe empiriquement. Ce qui est intéressant, c'est que donc il y a eu une grande étude au Royaume-Uni il y a déjà plusieurs années qui a testé différentes variantes de cette lettre de rappel, identifié la variante la plus efficace. Ensuite, ça a été généralisé au Royaume-Uni et cette unique mesure a permis de financer la nudge unique pendant plusieurs années. En Belgique, le fisc fédéral belge vient de faire la même chose. Ce qui est intéressant, c'est que ça n'est pas exactement la même variante de la lettre qui est efficace en Belgique et au Royaume-Uni. Et d'où l'importance des tests des politiques et les tests empiriques sur des échantillons représentatifs et faits avec des méthodologies rigoureuses. Si vous faites une politique destinée aux chômeurs et que vous vous adressez à une population dont une partie significative ne sait pas se servir d'un ordinateur, c'est évident que vous allez vous apercevoir dans les tests que si à un moment ils sont obligés de se servir d'un ordinateur, ça va pas marcher. Donc je crois que l'approche résolument empirique du nudging dans les politiques publiques permet, si elle est menée rigoureusement, d'éviter que cette séduction budgétaire ne résulte dans un moins bon service aux citoyens.
Oui, parce que du coup, ça pose la question de l'évaluation de ces politiques publiques qui sont influencées par les nudges, Coralie Chevalier. Est-ce que quand on évalue aujourd'hui ce qui se fait, par exemple, dans ces politiques, notamment en France, est-ce qu'on s'intéresse essentiellement à l'argent que l'on économise ou bien est-ce qu'on s'intéresse aussi à la qualité du service et à ce qu'en pense le public?
Oui, c'est une très bonne question. En fait, c'est absolument pas un outil qui est censé en premier faire économiser de l'argent. C'est censé en premier être un outil qui permet de faire des politiques publiques plus efficaces.
C'est censé, mais ça, quand on dit c'est censé, alors, ça veut dire que c'est pas forcément comme ça que c'est utilisé.
Non, pas du tout. Non, je peux reformuler en disant pas c'est censé, en fait. Je sais pas pourquoi j'ai dit
d'accord.
C'est censé, voilà. Mais la façon dont c'est évalué, c'est que, effectivement, on essaie de voir si l'intervention qui a été déployée a eu l'effet escompté. Par exemple, prenons un exemple lié à la santé, parce que la santé, c'est un bon exemple. On est tous d'accord que le pays bénéficie à ce que tout le monde soit en bonne santé, mais les citoyens eux-mêmes bénéficient à être en meilleure santé. On est tous d'accord là-dessus. Donc, si on fait une intervention basée sur les sciences comportementales, qui utilise du nudge ou autre chose, parce qu'encore une fois, le nudge, c'est un tout petit morceau du truc, on va essayer de mesurer si, effectivement, les citoyens sont en meilleure santé à l'issue de l'intervention. Ensuite, on peut se poser la question de est-ce que cette intervention a coûté cher par rapport à ce qu'elle a permis d'obtenir comme bénéfice. Et si on a à la fois un très bon effet et que en plus ça n'a pas coûté très cher, tant mieux, qui pourrait être contre ? Donc, pour reprendre l'exemple des antibiotiques, ce qui est important aussi d'avoir à l'esprit, c'est que ces nudges ou les sciences comportementales en général ne sont pas seulement destinées à changer le comportement du citoyen lui-même. La responsabilité n'a pas besoin d'être mise uniquement sur le dos du citoyen. Pour les antibiotiques, par exemple, on a envie de changer le comportement des médecins eux-mêmes. Donc les Anglais ont fait ça, ils ont envoyé des courriers en s'appuyant sur les normes sociales et ils ont réussi, grâce à ça, à baisser de 3,3% la prescription d'antibiotiques, ce qui a l'air d'être pas grand-chose, mais en fait ça correspond à 75 000 doses d'antibiotiques avec un simple courrier. Donc, il se trouve que cette intervention a coûté 4000 livres. Donc, c'est très peu cher. Tant mieux, j'ai envie de dire. On a eu une intervention efficace qui n'a pas coûté très cher. Donc, voilà, c'est bien. Et la responsabilité n'était pas mise uniquement sur le citoyen. C'est aussi, là, le professionnel de santé.
Si l'ensemble de ces cases est coché, Sophie Dubuisson-Callier, là, on peut dire que c'est intéressant d'utiliser ces dispositifs que sont les nudges.
Oui, alors on peut peut-être ajouter une autre dimension de l'efficacité qui serait la question de la pérennité. C'est-à-dire, comme le nudge est une forme de béquille, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on enlève la béquille? Et c'est une question sur laquelle l'OCDE, je crois, s'est penchée. En gros, est-ce que l'action que provoque le nudge est pérenne, dure dans le temps, et même une fois qu'il n'y a plus le nudge? Le problème qui se pose, c'est que, comme je disais, c'est une béquille. C'est-à-dire que le nudge ne va en rien modifier les raisons pour lesquelles on s'alimente de cette façon, les raisons pour lesquelles on utilise son chauffage de cette façon. Donc une fois qu'on retire le nudge, eh bien, j'allais dire, les pratiques sociales retrouvent leur mode de fonctionnement habituel et sont prises dans ces formes d'inertie qui font que, et c'est effectivement très compliqué de changer ces pratiques-là.
Donc ça peut être utilisé pour agir non pas sur le fond, mais en tout cas pour agir plutôt à court terme et pas forcément pour avoir une politique qui serait davantage d'ordre structurel, disons.
Oui, exactement. Le nudge ne va pas agir en fait sur les cadres sociaux de ces pratiques sociales et les raisons qui les fondent en fait. Donc, d'une certaine manière, la question de l'efficacité, elle ne doit pas uniquement en fait s'envisager à travers des notions purement économiques, mais aussi de changements profonds des structures sociales.
Il y a eu une tribune récente dans le journal Le Monde qui était signée par un chercheur et par un député de La République En Marche qui plaidait notamment pour une éducation sérieuse en sciences cognitives au collège et au lycée. Ils évoquaient justement les nudges et je vais juste vous lire deux phrases de cette tribune. Ils disent qu'il faut connaître les fondamentaux de la cognition humaine présente, que le fait de, pardonnez-moi, de connaître les fondamentaux de la cognition humaine présente un intérêt à la fois collectif et individuel. Pour la société, ces connaissances permettent d'orienter les comportements dans le sens de l'intérêt général. Pour l'individu, elles lui offrent la possibilité de se prémunir des multiples influences dont il est la cible. Est-ce que ça veut dire qu'il faudrait que l'on puisse enseigner non seulement les nudges, mais plus largement ces sciences comportementales le plus tôt possible, Coralie Chevalier?
Alors, je suis un peu biaisée, hein. puisque moi j'enseigne au sein du master de sciences cognitives et c'est mon métier de faire des sciences comportementales. Mais
on pourrait se dire que peut-être qu'il faudrait que vous commenciez plus tôt, dès le collège.
Ah mais absolument, moi je trouve que c'est indispensable pour l'éducation des enfants, des collégiens, des lycéens, de mieux comprendre comment fonctionnent leurs pairs, comment fonctionnent les interactions sociales.
Et se prémunir aussi d'éventuelles manipulations ?
Absolument. Quand on a réussi à identifier certains biais cognitifs, ça nous aide à nous apercevoir qu'on est en train de tomber dans ces pièges cognitifs. Par exemple, la fallacie des coûts perdus. Je ne sais pas si tout le monde connaît cette fallacie. C'est quand on a commencé à investir dans un devoir, une association, la construction de sa maison, etc., on se dit, même si on se rend compte qu'on est face à un mur et qu'on n'aurait pas dû prendre cette décision, on continue à investir et à investir et à investir. Eh bien, je ne sais pas si je suis un cas particulier, mais du jour où j'ai eu le nom de cette fallacie, ça m'a aidé à me rendre compte quand j'étais en train de me dire « Ah là, d'accord, là c'est la fallacie des coûts perdus, il faut s'arrêter, c'est pas parce que j'ai déjà perdu beaucoup de temps que je dois perdre encore plus de temps ». Voilà, donc je pense effectivement que ce serait très intéressant que dès plus jeunes, les enfants et les adolescents comprennent le fonctionnement psychologique, leur propre fonctionnement psychologique et celui de leur père.
Anne-Lise Siboni, si j'apprends à l'école ce que sont les nudges, je serai mieux armé peut-être pour me prémunir de certains d'entre eux. C'est-à-dire qu'on pourrait appeler les mauvais nudges, c'est peut-être un oxymore dans la mesure où on est censé être dans une forme de persuasion douce, mais bon, appelons-les comme ça.
Je crois que c'est une excellente idée de commencer à enseigner les sciences comportementales à l'école, ce d'autant que c'est extrêmement ludique. Donc je crois que ça pourrait vraiment avoir beaucoup de succès auprès des enfants. Et je crois que c'est toujours une bonne chose de mieux comprendre comment on pense, mieux comprendre comment on décide soi-même, pas seulement les autres. Et ça pourrait certainement avoir, comme vous le soulignez, comme le soulignait Coralie, ça pourrait certainement avoir comme effet qu'on soit plus conscient, par exemple, des techniques marketing et ou des interventions publiques qui essayent de nous nudger. Ça rendra aussi les citoyens plus habiles à cadrer les débats auxquels ils prennent part, à orienter les comportements qu'ils veulent influencer, par exemple vis-à-vis de leurs collègues. Et je pense que un usage conscient, intelligent de ce qu'on sait sur la pensée, la prise de décision humaine, peut pacifier les relations sociales dans beaucoup de domaines.
Sophie Dupuis-Sanquelier, je crois savoir que vous n'êtes pas, vous, totalement enthousiaste à l'idée qu'on puisse enseigner le nudge et plus largement les sciences cognitives, dont on voit bien quand même qu'il y a aujourd'hui une offensive qui est assez importante, hein, notamment à l'école, avec la nomination récente de Stanislas Dehaene par le ministre de l'Éducation nationale.
Alors, enseigner les sciences cognitives, pourquoi pas, mais j'allais dire à condition de préserver un pluralisme scientifique. Et donc, il faut...
Ça se fasse pas au détriment des sociologues, par exemple ?
Oui, ou des sciences sociales en général. C'est-à-dire, finalement, il faut aussi, en fait, apprendre comment fonctionnent nos sociétés, pourquoi, effectivement, les individus sont pas soumis, en fait, au même type de contraintes. Qu'est-ce qui tient à nos appartenances sociales, au groupe, à nos trajectoires, à nos formes de socialisation, et qui constitue aussi un cadre de contraintes qui ne peut pas nous rendre responsables de tout.
Voilà, d'ailleurs, la place des sciences cognitives aujourd'hui, ça fera sans doute l'objet d'un prochain numéro du Gramout. C'est un sujet absolument passionnant et extrêmement large. Un tout dernier petit mot, Coralie Chevalier. Alors ça, c'est un pur conseil pratique, hein, totalement personnel. Mais est-ce que le nudge, est-ce que ces techniques-là, ça marche avec les animaux et notamment avec les chats qui auraient parfois peut-être du mal à aller dans leur litière?
Mais alors, vous ne croyez pas si bien dire, parce que si vous voulez en savoir plus sur le nudge, vous pouvez lire le livre de David Halpern, qui est excellent, qui s'appelle Inside the Nudge Unit. Et il ouvre le livre en disant « Le nudge, c'est très ancien. » Et d'ailleurs, on en trouve des traces dans la construction d'un tunnel à Londres qui a des angles très spécifiques qui ont été construits comme ça pour éviter que les chevaux n'aillent trop vite en voyant la fin du tunnel, parce qu'un cheval qui voit la fin du tunnel, il fonce. Donc voilà, on a construit ce tunnel comme ça et aujourd'hui il est très dangereux pour les voitures.
Bon bah je vais voir si je peux appliquer ça à mon chat. Merci beaucoup en tout cas à toutes les trois d'avoir participé à cette discussion.
Merci.
Coralie Chevalier, Annelise Siboni et Sophie Dubuisson-Kellier. Cette discussion que vous pourrez retrouver comme chaque jour sur notre site internet franceculture.fr à la page du Grain à Moudre. Merci à toute l'équipe du Grain, Fanny Richet, Antoine Tricot, Virginie Leduo, Antoine Dulster, Eva Pellerin. Émission réalisée par Véronique Villa avec la prise de son Inès de Brune.